Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un garçon qui est assis là, en face de moi, et qui est doté d'une volonté absolument hors du commun. Bonjour Jonathan Druten.
Bonjour.
Quand vous étiez tout bébé, on vous a diagnostiqué une maladie mortelle, une mucoviscidose. Vous étiez donc condamné. On vous donnait 17 années d'espérance de vie. Et aujourd'hui, vous avez 34 ans et vous êtes là, assis en face de moi. Vous êtes même devenu un sportif de haut niveau puisque vous avez signé récemment un Ironman, et pas le moindre des Ironman, celui de Nice, qui consiste à enchaîner, je rappelle, un Ironman, un marathon en course à pied, 180 km en vélo et 3,8 km de natation. Pour en arriver là, vous êtes passé par une première greffe du poumon, puis une deuxième greffe cœur-poumon. Je vais raconter tout ça. Vous avez eu la chance d'être coaché dans la vie et aimé par un papa absolument unique qui a comblé la défaillance de votre maman. Vous racontez tout cela dans un livre qui paraît aux éditions Mareuil, Iron Man, d'où bien sûr j'ai tiré mon récit que voici. Je l'ai écrit avec Christophe Dumazer, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 4 septembre 1984, à l'hôpital de Clamart, c'est là que commence mon histoire. Un accouchement difficile, sans péridurale, il faut sortir les forceps et puis les ventouses. Ma mère hurle, ça dure des heures. Et puis, me voilà. Ma mère fond en larmes. Elle vient de mettre au monde son deuxième bébé. Et d'après ce qu'elle m'a raconté plus tard, elle remarque tout de suite que je suis pâle, très pâle. Elle m'embrasse, elle trouve ma peau moite. Et avec ça, une drôle d'odeur. Son instinct maternel se met en mode alerte. Il y a quelque chose qui cloche.
Docteur ? Docteur, vous êtes sûr que tout va bien ? Il est tout blanc.
Mais oui, il va bien, ne soyez pas mère poule. Je découvre notre appartement, en banlieue parisienne, à Meudon-la-Forêt. Mon père est ingénieur chez Renault, ma mère hôtesse dans les aéroports. Ils sont tous les deux de Saint-Étienne. Des jours passent. J'ai la diarrhée tout le temps. Et puis la peau toujours aussi blanche et maintenant violacée à certains endroits. Et je les vois tous les deux au-dessus de mon berceau. Ils s'inquiètent, ma mère plus que mon père. Elle me met peau à peau avec elle. Je passe des heures nues sur sa poitrine. Il y a un truc qui va pas. Là-dessus, je fais une bronchiolite. Ma mère m'emmène direct aux urgences pédiatriques. Madame, une bronchiolite à cet âge-là, c'est sérieux. On va l'hospitaliser. Et ça dure. Et mon état s'aggrave tous les jours. Et au bout de 3 semaines, madame, monsieur, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Voilà, nous avons pratiqué sur Jonathan le test qu'on appelle le test de la sueur. Votre fils est atteint d'une maladie génétique extrêmement rare, qui s'appelle la mucoviscidose. On est en 1984. Mes parents n'ont jamais entendu parler de la mucoviscidose. Et ils ne réalisent pas à quel point c'est grave. Dans l'immédiat, ces bronches-là sont très infectées. On va devoir lui administrer une forte dose d'antibiotiques, hein, disons 10 fois supérieure à la dose habituelle. Je dois vous dire qu'il y a un risque, mais si on ne fait rien, je ne suis pas certain de pouvoir le sauver. Il faut tout tenter. Mes parents rentrent à la maison. 1984, il n'y a pas Internet. Ma mère se jette sur l'encyclopédie. Mucoviscidose. Mucoviscidose, nom féminin, maladie héréditaire grave qui paralyse les organes vitaux, pouvant entraîner la mort. L'espérance de vie est de 17 ans. Elle s'écroule sur le canapé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas bien mangé pendant ma grossesse. Je ne suis pas assez hydraté. Ça n'a pas de sens. Mais c'est normal. lendemain matin, ils reviennent me voir, ils me trouvent sous une bulle à oxygène. Vitre hermétique, sondée, perfusée. Et l'infirmière qui dit
« C'est votre fils ? Profitez-en, il va bientôt mourir. »
Ma mère s'énerve, elle crie, elle pleure, elle peste contre cette femme qui lui parle sans tact. Dans mon berceau, il y a un bocal qui aspire le mucus, la saleté de mes poumons verdâtres. L'encyclopédie dit que je peux vivre jusqu'à 17 ans. Mais à partir de maintenant, je peux mourir n'importe quand, maintenant ou dans un mois. Mes parents décident de quitter Paris. Mon père a grandi dans les monts du Forêt, près de Saint-Étienne. Il sacrifie sa carrière pour que je puisse respirer de l'air pur. Et donc on rentre à Saint-Étienne. Mes parents prennent une maison tout près de l'hôpital. Et ils ont du mal à convaincre un kiné. Un bébé comme moi, c'est très contraignant pour un kiné, c'est vrai. Il doit venir à domicile, me pratiquer des clappings, des petits coups comme ça, sur ma poitrine pour dégager mes bronches. Et c'est 7 jours sur 7, hein, jour et nuit, il doit être dispo. Mais il finit par accepter, il s'appelle Philippe Bessière, et il est resté avec moi, jusqu'au bout. Après quelques mois, ma mère commence à perdre pied. Elle a repris son travail, mais elle craque souvent. Elle pleure, elle crie. Elle n'arrive pas à faire face. Elle est trop fragile, maman. Et un jour, elle va se consoler dans les bras d'un homme qui n'est pas mon père. Elle fuit son quotidien, en vérité. Ma maladie. Mais mon père ne lui pardonne pas. Et un matin, ma maman laisse une lettre sur la table de la cuisine. Elle n'assume plus. Elle capitule. Et elle nous laisse seuls, ma sœur et moi, avec papa. Il divorce. Mon père obtient la garde. Je ne verrai ma mère que de temps en temps le week-end. Me voilà sans maman pour me lire des histoires. Sans maman pour me faire des câlins. Un héros, mon père. Parce qu'il travaille, et pas qu'un peu. Il nous dépose à la garderie de l'école à 8 heures, un petit baiser furtif. Le soir, une nounou vient nous chercher. Il passe nous prendre, il court vers la cuisine. Et là, il n'ouvre pas des boîtes de raviolis. Il fait des omelettes, des salades composées. Et le week-end, on va à la piscine, on fait du ski nautique. À fois le suivre, hein. Il nous pousse à nous surpasser dans l'effort. Ma vie ne tient qu'à un fil, mais il veut qu'elle soit aussi riche que possible. Je fais encore pipi au lit. Eh bien, papa a mis ses talents d'ingénieur à mon service. Il a fabriqué un détecteur d'urine. Un petit carré en métal cousu dans mon slip, relié à un spot. À la première goutte, la lumière m'éblouit. Et après, il le perfectionne, hein, il le relie à ma chaîne Hi-Fi. Un petit pipi et la musique se met en marche. Je ne vois pas beaucoup ma mère. Le week-end, de temps en temps, elle habite un petit studio. Alors avec ma sœur, on dort à 3 dans son grand lit. Oui, on passe de bons moments ensemble. Mais c'est éphémère, c'est superficiel, ça ne me marque pas. Il y a une nouvelle personne dans ma vie, Hélène. La première fois que je la vois, c'est à un barbecue à la maison. Je cours direct chez les voisins.
Ça y est, papa a trouvé une nouvelle femme.
Elle emménage à la maison et elle devient notre mère de substitution. Et avec papa, il me donne une demi-sœur, Laura. C'est à peu près à ce moment-là, j'ai dans les 12 ans, qu'on installe Internet à la maison. Et un jour, je prends mon courage à deux mains et je tape « mucoviscidose ». Et là, je tombe sur des forums de discussion. Et c'est là que je réalise que ma maladie tue, que je vais mourir. D'un coup, je perds ma naïveté. Jusque-là, je n'avais pas réalisé. Je vais mourir demain. Mais en vérité, je n'en crois pas un mot, hein. Je me sens plus fort que la maladie. L'hiver, quand je me mets à tousser, c'est terrible. Ma poitrine se fend, c'est angoissant. Je prends jusqu'à 30 médicaments par jour. des qui me donnent envie de vomir, des qui me font saliver. Je fais aussi de la kiné, 20 minutes le matin avant l'école et 20 minutes le soir après l'école. Et puis j'inhale des aérosols deux fois par jour. Me battre contre la muco me prend au minimum 2 heures par jour. Vers mes 15 ans, mon état se dégrade. On passe aux cures d'antibiotiques par injection. Ah ça c'est magique, hein. C'est comme si on passait un coup de Karcher dans mes bronches. Les infections se volatilisent, mes poumons renaissent. Je suis libéré. Mais peu à peu, à la même époque, je deviens diabétique. Je me fais tout seul des piqûres au doigt pour mesurer mon taux de sucre et après, des injections d'insuline. Un médicament de plus. Oh, rien de dramatique, hein. Maintenant me voilà en terminale, face à un choix cornélien. Est-ce que je dois profiter? C'est-à-dire vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Ou alors, construire? Faire comme si tout était normal, passer des diplômes, alors qu'il y a très peu de chances que je travaille un jour. C'est pas facile à résoudre ça. Mon père me pousse évidemment, mais moi je traîne des pieds. Je suis obsédé par la mort. J'ai peur de mourir. Et donc, je redouble ma terminale. À quoi bon avoir des bonnes notes? Être bon élève? Ça ne me maintiendra pas en vie, puisque ma vie sera courte. Autant qu'elle soit intense. Alors je m'engueule avec mon père.
C'est pas toi qui vas te retrouver bientôt le thorax ouvert en deux pour tenter de rester en vie. Hein? C'est pas toi?
N'empêche que j'ai mon bac. Et qu'après mon bac, j'entre dans un DUT en génie électrique. Je m'aimais pas dans ceux de mon père ingénieur. Et d'ailleurs, dans la foulée, je rentre à l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées. Moi aussi, je serai ingénieur. Mais assez vite, je perds mon souffle. Et avec mon énergie, mon enthousiasme, la maladie est en train de prendre le dessus. Doucement, mais sûrement. Mais mon père, comme toujours, fait comme si de rien n'était. On part en vacances au ski, comme d'habitude, à Serre-Chevalier. Le premier jour, je me lance en haut d'une piste, au bout de 50 mètres. Je peux plus respirer. J'étouffe. Je passe des nuits entières à gamberger. S'il ne me reste, disons que 3 ou 4 ans à vivre, est-ce que je dois continuer à faire semblant? Le chanteur Grégory Lemarchal de la Star Academy.
J'ai jamais eu les pieds sur terre.
Atteint lui aussi de la mucoviscidose et mort il y a quelques mois. Il avait 24 ans.
J'en ai 23. Je suis sous perfusion 24-24. Mon corps est en train de m'échapper. Je n'ai plus que 2 options. Mourir ou une greffe. De nouveaux poumons.
Alors en attendant un donneur, on me prépare. Il faudra m'ouvrir en deux. On m'explique comment ça va se passer. On me fait des tests. Et puis un jour, bien Jonathan, vous êtes inscrit sur la liste de transplantation. Maintenant, il faut attendre. Attendre. En moyenne, entre 7 et 9 mois. Et les mois passent. Et je suis toujours perfusé en permanence. Et tous les jours, sous oxygène. À chaque coup de téléphone, mon cœur s'emballe. Le 13 juin 2008, c'est un numéro privé.
Allô?
Monsieur Drutel, il y aurait potentiellement un greffon pour vous. Il faut venir à l'hôpital immédiatement.
Je vais à l'hôpital, on me prépare et puis...
Je suis désolé, monsieur Drutel. Les poumons ne sont pas bons.
Vous pouvez rentrer chez vous et boire une bonne bière. Trois jours après. C'est reparti. Prise de sang, douche à la bétadine, rasage, brancard. Mes parents m'embrassent une dernière fois. Ils me touchent, ils me caressent. Et me voilà au bloc. Je vais vous placer un masque à oxygène sur le visage. Ok ? Vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ça dure 6 heures. Et après, je fais un œdème, classique. Il me faut une longue semaine pour entrouvrir les yeux. Il y a eu des complications. Et puis on m'extube. Mais je m'étouffe. Alors on me réintube. La troisième semaine, je suis agité. J'arrache les tuyaux. Je suis pris d'hallucinations. Je vois des gens avec des têtes d'animaux. Et il y a des poissons dans ma chambre. Alors ils m'attachent à mon lit. Mes poignets me font mal. Ils mettent plusieurs jours à comprendre que c'est le cocktail de médicaments post-greffe qui me fait délirer. Et après, les complications s'enchaînent. J'attrape un staphylocoque doré et c'est reparti pour les antibiotiques. En 3 semaines, je suis passé de 54 à 41 kilos. Le kiné veut me faire marcher. Je pose le pied par terre, je m'écroule sur lui et je dois tout réapprendre. Manger, déglutir, aller aux toilettes, me laver tout seul. Mais au bout de 3 semaines, je respire sans encombre. Ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. Je quitte l'hôpital, plein d'espoir. Je vais dans un centre de rééducation, en Ardèche. Pas longtemps, mon état se dégrade. 3 jours plus tard, on me renvoie à l'hôpital. Il y a un problème. Mes poumons sont en train de se nécroser. Alors on me met dans les mains d'un ponte du CHU de Saint-Étienne qui tente un truc que jusqu'ici, il n'a pratiqué que sur les malades atteints d'un cancer du poumon. Mais il n'y a pas le choix. Il s'agit d'aller poser dans le poumon une armature métallique couverte de silicone, une prothèse pour dilater les bronches. Pour l'instant, je suis sauvé. Et je rentre chez moi. Et là, je tente de reprendre le cours de ma vie. Je suis toujours inscrit en école d'ingénieur. Je le veux, ce diplôme. Alors à la rentrée, j'y vais. Mais je tiens 2 jours. Je suis épuisé. Je peux pas faire comme si tout allait bien. Je me mets à tousser. Et là, on pense que c'est un rejet, mais non. Ça n'en est pas un. C'est pire. C'est une infection sur les points de suture de mes bronches. Mon pronostic vital est engagé. Et là, mon père, il me l'a dit plus tard, à ce moment-là, il pense enterrement, il pense pierre tombale. On m'a trouvé un aspergillus dans les poumons. C'est un champignon virulent. Il n'y a qu'une seule solution, une deuxième greffe. D'autres poumons, mais pas que. Pour me donner toutes mes chances, il est maintenant question de me transplanter des poumons et un cœur. Alors que le cœur, le mien, va très bien. Les 2 organes viendront du même donneur. Le 25 décembre 2008, j'entre sur la liste des malades en attente d'organes. 2 jours plus tard.
Monsieur Trudel, hôpital Louis Pradel. On a un cœur poumon disponible pour vous, venez.
Hôpital, douche de bétadine et puis... Ben non, finalement, il n'y a plus de greffe disponible. Retour sur la liste d'attente. Ce que je fais en attendant, j'écris des petits mots à mes proches. Un petit mot pour toi, mon petit papa. Tu m'as toujours dit que le principal dans une vie, c'était de vivre heureux. La mission est accomplie. Je pense que rendre heureux son fils pendant 24 ans n'est pas donné à tous les papas. Coucou Laurette. Excuse-moi d'être parti si tôt. Dis-toi que je suis enfin libre de tous ces soins et que là où je suis, je ne souffre plus. Lundi 16 août.
Monsieur Drutel, c'est votre chirurgien, le professeur Tron. On n'arrivait pas à vous joindre. Il y a peut-être un cœur-poumon pour vous.
Oh, enfin !
Hôpital, Bétadine, et autour de mon lit toute la famille et tous mes amis. 17h15.
Monsieur Drutel, dans quelques minutes nous partons pour le bloc. L'équipe est prête, les greffons aussi.
Ma sœur, ma mère et ma cousine poussent mon brancard jusqu'à la dernière limite. Le chirurgien arrive.
Alors Jonathan, que diriez-vous d'une grande croix au milieu de votre poitrine?
J'ai une chance sur deux de m'en sortir. Minuit. D'un coup, les machines s'agitent. Affolement général. Un drain planté dans ma poitrine saigne. Hémorragie au niveau du cœur. Le chirurgien parvient à colmater la brèche. Ouh. 48 heures plus tard. Vous entendez 48 heures. J'ouvre les yeux. Et la première chose que je fais, c'est de m'extuber. Et là...
Je respire comme je n'ai jamais respiré. Ça n'a rien à voir avec la première fois.
Je sors de l'hôpital début septembre et écoutez bien, 3 jours plus tard, je fais du ski nautique. C'est ma manière de dire que désormais, j'irai bien. Et à la rentrée suivante, je suis de retour sur les bancs de mon école d'ingénieur. Je le veux, ce diplôme. Et j'intègre une classe où personne ne me connaît. Eh oui, les autres ne m'ont pas attendu. Et pour une fois, je vais tout droit jusqu'au bout. Me voilà ingénieur. Quelle revanche ! Et dans la foulée, je décroche un CDI, je grimpe les échelons et en 2 ans, je me retrouve manager dans mon bureau d'études. Ce qui m'arrive après, ça je ne sais pas si vous allez comprendre. La vie m'ennuie. Je n'ai plus de but. J'ai plus d'envie. Je ne tousse plus. Je respire à plein poumon. Et pourtant, je ne vais pas bien. Je n'ai plus rien à combattre. J'ai tellement été dorloté, chouchouté pendant tout le début de ma vie. Je me retrouve seul. Je me sens abandonné. J'ai vu sur Internet que c'est caractéristique des enfants atteints de maladies chroniques. Ils appellent ça l'égoïsme narcissique. Ce qui va me sauver, c'est une drogue, le sport. Je commence par la course du cœur, un relais de course à pied entre Paris et la station de ski des Arcs. J'enchaîne avec le mont Ventoux, en vélo, 22 km, jusqu'à 1900 mètres d'altitude. Et à l'arrivée...
C'était super, Jonathan. T'as vu, t'es arrivé.
On me tombe dans les bras. On m'embrasse. Je retrouve enfin l'attention que j'avais perdue. Les bienfaits d'être entouré. Mon prochain défi, c'est le marathon de Paris. J'ai 7 mois pour me préparer. Ou changer d'avis. Le challenge est excitant, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Et les médecins non plus d'ailleurs. Est-ce qu'un malade de la mucoviscidose, double transplanté cœur-poumon, peut terminer un marathon? Pour eux, je serai un cobaye. Quand je commence l'entraînement, je ne peux pas courir plus de 10 km. Un marathon, c'est 42. Mais plus je m'entraîne, plus je suis en forme. Je ne pense plus qu'à ça. Les progrès sont spectaculaires. Le jour J, mon ami Mike court à côté de moi avec le drapeau de l'association Vaincre la mucoviscidose. À partir de 35 km, j'alterne marche et course. Je transpire 3 à 5 fois plus qu'une personne normale. Les gens crient
« Allez Jonathan ! Allez Jonathan !»
Ça me transcende. Le passage de la ligne d'arrivée est grandiose. Quel cadeau pour mon père qui a aujourd'hui 60 ans. J'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie. Je veux accomplir des exploits pour prouver que rien n'est impossible. Alors j'enchaîne avec un autre défi.
Paris-Saint-Malo en vélo en 3 jours. 150 km par jour. Et après, mon objectif est de faire des triathlons. Et donc je me lance dans un sport que je ne maîtrise pas du tout. La natation. Mon Dieu que c'est dur. Je bois la tasse pendant des semaines. Mais je me bats encore et toujours. Et aujourd'hui, je me lance dans le défi le plus fou de toute ma vie. L'Ironman de Nice. 3,8 km de natation. Enchaîné avec 180 km de cyclisme. Et pour finir, un marathon. Dantesque! Je prends contact avec les organisateurs. Oui, vous comprenez. J'aurais besoin d'être accompagné au cas où je me sentirais mal. Oui, je sais, le règlement l'interdit, mais...
Vous vous rendez compte ce que c'est qu'un Ironman, monsieur?
Oui, j'ai fait le dernier Natureman. Et j'ai terminé. Hein.
Vous avez fait le Natureman? Banco, je vous inscris. Et vous pourrez être accompagné.
Je n'en ai même pas parlé à mes médecins. Et je ferai cette course, que ça leur plaise ou non. Je me prépare au rythme de 20 heures de sport par semaine. Pour me préparer, je cours le demi-Ironman de Barcelone. Et arrive le grand jour, le 24 juin 2018. J'ai du mal à me détendre. Mes orteils touchent l'eau tiède de la mer. C'est bon, je suis en forme. On m'aide à sortir de l'eau, je tremble. J'ai froid. Je prends le temps de bien me sécher et c'est parti pour 180 km de vélo. Ma bouche est pâteuse. Je trouve mon rythme. Je dois aller jusqu'au bout. Je m'arrête faire pipi. Voilà le col de Vence, c'est le dernier grand col. Je suis à bout de force. J'arrive à la promenade des Anglais, il est 17h30. Si je veux la médaille, il me reste 6 heures pour boucler le marathon. Les 10 premiers kilomètres sont faciles. Et puis la nuit tombe. Je me bats. Je ne lâche rien. Je suis à 5 kilomètres de l'arrivée. Je marche. Je cours. 100 mètres de l'arrivée. Je fends la foule. Quand on me passe la médaille de l'Ironman autour du cou, je suis euphorique. Et je pense à ces deux inconnus si précieux. Mes deux donneurs. Cette victoire... Et pour tous ceux qui se sont battus pour que je reste en vie.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.